va retrouver l'entretien du 18h et donc on va revenir sur la visite du président iranien Ebrahim Raisi en Syrie, puisqu'il est il y est arrivé hier pour une visite d'État de 2 jours, la première d'un dirigeant iranien depuis 2011, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en Syrie. Une visite où il devrait signer plusieurs accords ainsi qu'accumuler les rencontres. Eh bien, Blaise van der Linden a tendu son micro à Fabrice Ballanche, maître de conférence à l'université de Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Orient et particulièrement de la Syrie. Voici les impressions de Fabrice Ballanche.
Fabrice Ballanche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient et de la Syrie. Le président iranien Ebrahim Raisi, dont le pays soutient le gouvernement syrien, est arrivé ce mercredi à Damas. Première visite d'un chef d'État de la République islamique depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Alors pour commencer, Fabrice Ballanche, comment peut-on expliquer ce réchauffement soudain des relations entre les deux pays ?
Oh, les relations entre l'Iran et la Syrie n'ont jamais été froides, bien au contraire. C'est quand même grâce à l'Iran que le régime d'Assad a réussi à survivre à l'insurrection. Il bénéficie depuis le début de la guerre civile d'un soutien économique massif de la part de l'Iran, d'un soutien militaire avec les milices chiites irakiennes, le Hezbollah, les gardiens de la révolution qui sont venus en Syrie, et un soutien diplomatique qui n'a jamais fait défaut. Non, on n'a pas eu de refroidissement entre les deux pays. Bon, c'est juste que avec le réchauffement des relations entre la Syrie et les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, aujourd'hui l'Iran vient en Syrie pour rappeler tout de même au monde arabe que la Syrie est une colonie iranienne, hein, tout simplement. Donc il y aura un réchauffement entre Damas et les pays du Golfe, mais ça ne va pas diluer pour autant l'influence iranienne en Syrie.
Alors nous reparlerons de l'Arabie Saoudite un peu plus tard, mais vous l'avez dit, effectivement Téhéran n'a jamais cessé de fournir un soutien économique, politique et militaire au régime de Bachar el-Assad. Alors pourquoi aucun président iranien n'est pas venu depuis un peu moins de 15 ans ?
Oui, la dernière visite d'un président iranien, c'était en 2010. C'était Ahmadinejad qui était venu à Damas. Il y avait une rencontre au sommet entre Ahmadinejad, Bachar el-Assad et Hassan Nasrallah. C'était en février 2010. C'était un petit peu un pied de nez à l'Occident à l'époque. Souvenez-vous, hein, la lune de miel entre la France de Sarkozy et la Syrie de Bachar el-Assad, la France qui avait même poussé les États-Unis à rouvrir une ambassade à Damas, ce qui avait été fait en janvier 2010. Et un mois plus tard, vous avez cette réunion Ahmadinejad, Hassan Nasrallah, Bachar el-Assad à Damas pour rappeler l'existence de l'axe de la résistance. Un espèce de pied de nez aux Occidentaux. Là aussi, l'Iran rappelait que ce n'est pas parce qu'il y a une ambassade américaine qui rouvre à Damas, eh bien, que l'Iran disparaît. Non, la Syrie est bien ancrée dans l'axe de la résistance, hein, comme il s'intitule. Donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. L'Iran rappelle sa présence.
Devons-nous nous attendre à ce que de nombreux accords soient signés entre les deux pays lors de cette visite d'Ebrahim Raisi ?
Oui, alors des accords, il y en a toujours tout un tas qui sont signés lors de ces visites, mais très franchement, il y a assez peu de réalisations concrètes. Donc là, il y a une importante délégation économique iranienne qui vient en Syrie. Ils vont sans doute signer des contrats sur l'électricité, une voie de chemin de fer commune, Syrie, Irak, Iran. Différents accords, mais bon, faut pas se leurrer. L'Iran n'a pas une capacité d'investissement énorme, et déjà difficulté avec sa propre économie. Donc c'est pas l'Iran qui va reconstruire la Syrie.
La Syrie a également, donc vous l'avez dit tout à l'heure, renoué ses relations avec l'Arabie Saoudite. On assiste à un retour de la Syrie sur la scène internationale.
Oui, tout à fait. C'est lié également à l'accord Iran-Arabie Saoudite qui a été signé récemment grâce à la médiation de la Chine. Donc la Syrie bénéficie évidemment de cet accord, puisque Les Iraniens sont censés neutraliser les Houthis au Yémen, éviter qu'ils tirent des missiles régulièrement sur l'Arabie Saoudite, ce qui remet en cause évidemment le développement économique de l'Arabie Saoudite, l'économie de la connaissance, développement urbain, ce que veut lancer le prince Mohammed Ben Salman. Et en échange, eh bien, sur le front syrien, l'Arabie Saoudite s'engage évidemment à ne pas soutenir l'opposition et à investir quelques milliards plutôt de dollars en Syrie pour relancer son économie.
Mais quelles sont les raisons de ces normalisations? Rien n'a changé en Syrie.
Non, rien n'a changé. Enfin, si ce n'est qu'aujourd'hui, Assad est vraiment sûr de rester au pouvoir. Bon, une chape de plomb qui s'est imposée sur la Syrie, bien entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la prime au vainqueur. Assad a acquis durant cette guerre une légitimité par la force, par la violence, hein, qui montre que c'est un chef d'État ben, qui tient son pays grâce à la répression, grâce à la violence, hein, d'accord. Mais ça, quelque part, parmi les pays arabes, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'ils vont dénoncer. Eux-mêmes tiennent leur pays également par la force et peuvent recourir à une forte répression si besoin en est. Donc, ils ont compris qu'Assad resterait en place, que ses alliés, ses soutiens, l'Iran, la Russie, la Chine étaient des pays aujourd'hui avec lesquels il fallait compter. Et par conséquent, ben, il le réintègre, il le réintègre parmi eux. Alors, sur la scène internationale, c'est beaucoup dire parce que du côté occidental, il y a toujours un blocage, évidemment, par rapport à la Syrie de Bachar el-Assad. Mais dans le reste du monde, on est beaucoup plus compatissant à son égard.
Doit-on s'attendre, pardon, à de nouvelles normalisations? On parle de l'Égypte, la Jordanie, l'Irak même.
Avec l'Irak, c'est déjà bien avancé, hein, puisque de toute façon, en Irak, ce sont des pro-iraniens qui sont au pouvoir, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. La Jordanie bénéficie quand même d'un soutien, un fort soutien occidental, donc elle y va plus modérément. Mais la Jordanie, depuis 2018, a réouvert sa frontière avec la Syrie, parce qu'elle crée une déstabilisation avec l'afflux de réfugiés, avec l'afflux de djihadistes de son côté, donc elle a intérêt à une stabilisation de la Syrie. Et c'est ça finalement qui motive aussi les pays du Golfe, mais l'Égypte, la Jordanie, c'est éviter que la Syrie ne sombre dans le chaos, ce qui pourrait profiter à la recrudescence des mouvements djihadistes. Daesh n'a absolument pas disparu. Hein, le feu couve sous les braises. Et par conséquent, les pays du Golfe aussi voudraient trouver une solution, une stabilisation à la Syrie, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit démocratique ou dictatoriale, peu leur importe. Ce qui leur importe, c'est que ça se stabilise pour éviter évidemment que les métastases ne se répandent à l'ensemble de la région.
Israël doit-il craindre ces différents rapprochements?
Alors effectivement, pour Israël, c'est une mauvaise nouvelle. Israël, après les accords d'Abraham, envisageait la création d'un OTAN arabo-israélien face à l'Iran. Et là, aujourd'hui, on voit l'Arabie saoudite, qui n'est pas signataire du pacte d'Abraham, mais qui le soutient, des pays comme Bahreïn ou le Soudan, lié à l'Arabie saoudite, participe donc au pacte d'Abraham. Là, effectivement, c'est un coin qui est enfoncé dans le dispositif que voulait constituer Israël face à l'Iran. D'un autre côté, il faut pas se leurrer sur les intentions de l'Iran. Son utopie mobilisatrice, c'est toujours la destruction d'Israël. Ça, c'est vraiment le pilier de la révolution islamique. Ils ont des bases en Syrie, ils accumulent les missiles en Syrie et au Liban, et ils pourraient lancer une offensive contre Israël, en se disant qu'aujourd'hui, finalement, les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats, sont neutralisés par cet accord réalisé sous l'égide de la Chine qui met un terme un peu à la discorde, à la fitna entre Arabie Saoudite et Iran. Donc oui, effectivement, pour Israël, c'est une mauvaise nouvelle et le danger peut augmenter justement les Iraniens se sentant protégés du côté arabe et pouvant concentrer leurs forces contre Israël. Faut pas oublier que la lutte contre Israël fait toujours recette dans la rue arabe, même si les dirigeants signent des accords de paix avec Israël. On a toujours une rue arabe et des mouvements terroristes islamistes qui peuvent en émerger et se rapprocher de l'Iran dans le cadre de cette lutte contre Israël. Donc oui, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise nouvelle pour Israël.
Fabrice Ballan, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient et de la Syrie. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci, au revoir.